rituels, bien, on a vu tout un ensemble de choses qui sont liées à l'œuvre de Satan et de ses démons. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous voyons finalement l'équipement spirituel du chrétien pour résister aux ruses du diable, comme nous le dit le texte d'Éphésiens chapitre 6. Alors nous allons relire le texte d'Éphésiens chapitre 6, puisque nous avons terminé de voir l'armure du chrétien. Et maintenant, nous allons passer à la suite du texte, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je vais le lire, tu n'es pas obligé d'afficher, hein, comme ça tu ne dois pas changer. Éphésiens 6, à partir du verset 10, il est écrit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Donc nous avons vu jusqu'ici tout l'équipement du chrétien. Nous avons vu la ceinture que nous devons porter, les chaussures, le bouclier, le casque, l'épée. Et maintenant nous voulons continuer le texte à partir du verset 18 où il nous est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le texte nous invite à faire en tout temps toutes sortes de prières. Et donc, en fait, on comprend que dans le passage, il y a les armes que nous avons, c'est-à-dire ce bouclier, l'épée, etc., etc., mais l'arme par-dessus tout, ou l'arme la plus forte qui nous est donnée, c'est la prière, faite en tout temps. On s'en rend bien compte quand on lit le texte que le tout est uni, que les différentes choses que nous devons porter, nous ne pouvons les porter que par la prière. C'est par la prière que nous pouvons porter cette armure. C'est par la prière que nous pouvons nous munir de ces différents outils. Et c'est par la prière que l'armure que nous portons peut devenir utile. En d'autres termes, il ne suffit pas de prendre ces différentes choses, de prendre le bouclier et tout ça. Tout cela doit être fait dans un esprit de prière, par la prière, et la prière se révèle comme étant l'arme indispensable pour résister aux ruses du diable. La prière peut être considérée à la fois comme une arme défensive et à la fois comme une arme offensive. Rappelez-vous qu'on a vu que dans le texte, en fait, les différents éléments de l'armure sont surtout des éléments défensifs, le bouclier, la ceinture, les chaussures et tout ça, et qu'il y a un outil qui est l'outil offensif, c'est l'épée de l'esprit. Eh bien, la prière, elle, c'est une arme défensive. Avec la prière, nous pouvons nous défendre des ruses du diable, mais avec la prière aussi, nous pouvons faire des offensives contre le royaume des ténèbres. Et donc, le texte nous dit, frères et sœurs, ne vous contentez pas de prendre votre petit bouclier et tout ça, vous devez aussi prier. Et en fait, si on comprend le texte dit, en fait, ne pensez pas que vous pouvez prendre ces outils-là sans la prière, en d'autres termes. Vous pouvez pas vous dire, mais moi je vais réussir à prendre le bouclier de la foi par ma force. Non, le bouclier de la foi, cette foi qu'on mobilise, c'est par la prière que nous pouvons le mobiliser, que nous pouvons le porter. Et donc la prière est une arme pour le combat spirituel, ou on pourrait même dire qu'elle est l'arme des armes. Elle est l'arme des armes, elle est l'outil des outils. Et le texte nous dit, si vous voulez résister aux ruses du diable, si vous voulez résister aux manigances de l'ennemi, vous devez faire des prières en tout temps. Et quand le texte nous dit « en tout temps », vous voyez l'expression, ça veut dire que la prière n'est pas censée être quelque chose d'épisodique, de sporadique, quelque chose que nous faisons quand on a le temps, quand on n'a rien à faire. Faites en tout temps. Donc ça fait référence aussi à ce texte qui dit « Priez sans cesse ». Donc faites en tout temps. Le texte nous invite à être des hommes et des femmes qui prennent à cœur la prière. Et c'est par la prière aussi que nous pouvons résister et que nous pouvons vaincre dans le combat spirituel. Le texte dit « Faites en tout temps ». Mais le texte aussi dit « Faites en tout temps par l'Esprit ». Donc le texte dit qu'il faut prier en tout temps, mais il nous dit que nous devons le faire par l'Esprit. Et c'est important cette expression, ce n'est pas anodin. « Faites en tout temps par l'Esprit ». En d'autres termes, nous devons prier en tout temps, mais nous devons prier en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que nous devons prier. Il peut arriver que comme enfant de Dieu, nous prions beaucoup, mais nous prions mal. Nous prions mal parce que nous prions selon des impulsions humaines, selon des idées humaines, et nous ne prions pas dans la dépendance au Saint-Esprit. En réalité, la prière efficace, c'est la prière que nous faisons par le Saint-Esprit. Alors évidemment, ce que le passage veut dire, c'est que de toute façon, on ne peut pas prier autrement que par le Saint-Esprit, évidemment. C'est le Saint-Esprit qui nous met en contact avec Dieu. C'est notre esprit qui est en contact avec l'Esprit de Dieu qui permet la communion avec Dieu. Mais bien plus, le texte veut dire que nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit dans notre façon de prier. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous devons prier par le Saint-Esprit. Et le texte de Jude 1, verset 20, nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc c'est un élément très important, c'est que le Saint-Esprit doit nous conduire dans notre vie de prière. Et rappelez-vous qu'il y a quelques séances, on avait vu que le royaume des ténèbres est un royaume pour lequel on a besoin d'un discernement spirituel, par exemple. Nous ne pouvons pas voir les œuvres des ténèbres avec les yeux humains. C'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer ce qui se passe. Le Saint-Esprit qui doit nous montrer que là, l'ennemi met un obstacle dans notre vie d'église, ou là, l'ennemi est en train d'essayer de bouleverser notre vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous montre tout ça. Et donc, en fait, nous avons besoin aussi de cette révélation du Saint-Esprit, de cet éclairage du Saint-Esprit, pour ne pas prier comme ça, lancer des flèches à gauche, à droite, en disant, mais il y a peut-être une flèche qui touchera, mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous montrer, voilà là où tu dois mettre ta flèche. Voilà dans quel sens tu dois prier. Voilà pourquoi tu dois prier. Voilà dans quelle dynamique tu dois prier. On a besoin que le Saint-Esprit fasse ce travail de nous conduire. Alors, vous voyez, cette diapositive, elle vous touche, n'est-ce pas? Elle vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Je vois que vous dites, ah, c'était la bonne époque. Non, vous avez oublié. Donc, c'était dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, à l'époque. Hein, vous avez oublié, mais c'était à l'époque, en 2020, hein, où nous avions... Ah oui, voilà, vous aviez tous oublié, c'est fou. Il n'y a que Sonia qui est assez honnête pour montrer qu'elle avait oublié, mais vous autres, vous faites semblant de rien. Donc, on avait parlé de l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit dans la prière. Alors, je rappelle ici très rapidement que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous incite à la prière. Vous connaissez, vous avez déjà certainement entendu des gens qui disent ben « Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai senti que je devais prier. J'ai senti que je devais prier pour un tel ou pour une telle. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai prié à 16 heures et c'était justement le moment où la personne avait besoin que je prie pour elle. » Rappelez-vous le témoignage de Géniade il y a quelques semaines. C'est le Saint-Esprit qui met à nos cœurs que nous devons prier. Alors on doit prier en tout temps, mais parfois il peut vraiment nous mettre une pointe en disant « Allez, ça vous est déjà peut-être arrivé d'être en train de prier et de voir tout à coup, d'avoir une personne à cœur tout à coup, ou de voir le visage d'une personne et vous vous sentez poussé à prier pour cette personne. » C'est le Saint-Esprit qui peut aussi mettre dans nos cœurs des fardeaux de prière. Hein, le fardeau de prière, c'est l'idée que, à un moment donné, on va ressentir en soi un poids et un besoin de prier pour quelque chose. On ne sait pas pourquoi, parfois, on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas ce qui nous arrive, mais on va avoir tout à coup l'envie de prier pour quelqu'un. On ne sait pas où est Lynn, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai besoin de prier pour Lynn. Et je sais que, et le Saint-Esprit me dit, prie pour Lynn dans tel sens. Donc vous voyez que c'est lui qui peut nous conduire dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit aussi nous enseigne comment et pourquoi nous devons prier. La Bible nous montre aussi dans Romains que le Saint-Esprit met sur nos cœurs, dépose sur nos cœurs, des demandes qui s'expriment par des soupirs inexprimables. Vous vous souvenez de ce texte, de soupirs inexprimables, c'est-à-dire d'expression où le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, il nous pousse dans un sens, on ne sait pas l'exprimer avec des mots, on ne sait pas dire ce qui se passe, mais malgré tout, il dépose quelque chose sur nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que nous devons demander à Dieu. Parce qu'il connaît le plan de Dieu, il sait ce qui est bon, ce qui est parfait, et il sait en chaque circonstance quelle est la bonne prière à faire, dans quel sens. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir une situation comme ça dans votre vie, et vous vous dites, je sais que je dois prier, mais je ne sais pas ce que je dois demander. Et je ne sais pas ce que je dois dire. Seigneur, que le problème disparaisse, ou que la situation change, ou que je ne sais même pas ce que je dois demander. Parfois, ça nous arrive. Eh bien, le Saint-Esprit peut nous conduire aussi pour nous montrer, voici ce qu'il faut demander, voici dans quel sens nous devons prier. Le Saint-Esprit fait naître en nous des désirs. Il nous révèle l'œuvre de Dieu. Il nous révèle, voilà, là maintenant, dans ta vie, dans l'Église, voici ce que Dieu veut faire. Voici comment Dieu veut agir. Et du coup, comment il nous révèle comment Dieu veut agir, eh bien nous allons prier dans ce sens-là, par exemple. Le Saint-Esprit, la Bible nous montre aussi qu'il prie en nous. Il prie en nous, puisqu'il habite en nous, eh bien il prie en nous. Il exprime les désirs de Dieu, le plan de Dieu en nous, et nous devons nous aligner à ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, à comment il nous dirige, à comment il nous instruit. Le Saint-Esprit éveille en nous le besoin de prier, il nous rend capables de prier et il nous conduit dans notre vie de prière. Et le Saint-Esprit nous assiste dans nos prières, il nous soutient dans notre vie de prière. Alors, ce schéma-là, on en avait parlé beaucoup à l'époque, mais je vais juste en dire un mot. Vous savez que la Bible nous montre que Christ intercède pour nous auprès de Dieu. Donc, il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. La Bible nous montre que le Saint-Esprit intercède dans nos cœurs et qu'il nous pousse à la prière. Et nous, en tant qu'humains, nous pouvons, par le Saint-Esprit, nous aligner d'une part à la prière que Jésus est en train de faire au ciel et à la prière que le Saint-Esprit est en train de faire en nous. C'est-à-dire que nous pouvons nous aligner non seulement au Fils qui prie le Père, au Saint-Esprit qui prie le Père en nous, et laisser notre prière être conduite par le Saint-Esprit. Alors ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Chacun de vous, vous l'avez déjà expérimenté, de sentir, voilà, je sens que je dois aller dans tel sens, je sens que je dois prendre un temps pour prier pour ça, pour prier pour telle personne, il y a telle chose qui me chipote, et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Donc le texte dit, faites en tout temps par l'Esprit. Alors faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, c'est une invitation à nous dire que il y a toutes sortes de prières à mobiliser. Le texte nous dit finalement, faites en tout temps, c'est-à-dire en tout moment, par l'Esprit, mais toutes sortes de prières. Il y a tout un ensemble de prières que nous devons mobiliser. Il n'y a pas qu'un seul type de prière que nous devons faire, mais il y a toutes sortes de prières que nous devons faire à Dieu. Et parmi les types de prières que l'on peut citer, vous en connaissez beaucoup, mais on peut citer par exemple la prière de louange, la prière d'action de grâce, la prière d'adoration, la prière de consécration, c'est-à-dire les moments où nous prions Dieu en lui demandant de nous aider à nous consacrer davantage. Quand on dit « Seigneur, aide-moi à être plus humble, ou Seigneur, aide-moi à pardonner plus facilement, donne-moi ton cœur, aide-moi à ressembler à Jésus-Christ. Vous voyez tous ces moments où nous prions pour demander à Dieu de nous aider à aller plus loin, de nous consacrer davantage. Il y a la prière de demande, évidemment, la prière dans laquelle nous exprimons à Dieu nos besoins, nos demandes, dans laquelle nous disons, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça dans ma famille, j'ai besoin de ça matériellement, j'ai besoin de ça pour l'Église, j'ai besoin de ça pour mon travail, les moments où nous prions pour demander à Dieu. Il y a aussi, et c'est important de le noter, les prières qu'on appelle les prières de proclamation ou les prières de confession. Alors, la prière, on le sait, elle est nommée comme étant, quand quelqu'un nous demande c'est quoi prier, on lui répond, prier c'est parler à Dieu. C'est aussi simple que ça. Prier c'est parler à Dieu. Okay? Mais il y a certains types de prières, dont deux qui sont là affichées, certains types de prières qui ne sont pas des prières nécessairement adressées à Dieu, mais il y a parfois des prières qui sont simplement des proclamations de notre foi, où nous affirmons ce que nous croyons. Où nous exprimons notre foi. Nous pouvons exprimer notre foi tout simplement dans nos moments de prière. Seigneur, je crois à ta parole qui dit que je crois que tu es avec moi, je crois que tu es mon berger, je crois, j'exprime ce que je crois devant Dieu. Et puis, il y a d'autres types de prières qui sont des prières, pas réellement des prières du coup, mais qui sont adressées cette fois au monde des ténèbres, qu'on appelle des prières d'autorité, des prières de combat spirituel, des prières d'autorité. Et donc, vous avez donc ici la prière de proclamation, de confession. Je crois ceci, voici ce que ma foi dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Il y a la prière de supplication, le texte en parle aussi. Ce sont les prières dans lesquelles nous supplions Dieu. Et c'est intéressant que le texte dit, faites toutes sortes de prières et des supplications, ce qui nous indique que la supplication, c'est quand même une démarche de prière particulière. Ce n'est pas juste une petite demande, Seigneur, exauce ceci, cela. La prière de supplication, c'est une vraie prière où on supplie Dieu. En fait, la prière de supplication fait référence au fait de se prosterner devant Dieu. Donc c'est vraiment la prière que l'on fait... Parce que bon, nous tous, les chrétiens évangéliques, vous autres, les chrétiens évangéliques, on dit toujours, Seigneur, nous te prions à genoux, mais on est assis. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, mais on est assis. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. Dans la Bible, quand on dit, Seigneur, nous nous prosternons, c'est nous nous prosternons. Et c'est pas simplement le corps qui compte, mais c'est le fait que ça exprime l'état du cœur. Et la Bible nous montre ça, si vous lisez les psaumes, on a ça à n'en plus finir. Il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles on dit, Seigneur, je t'en supplie, je te supplie à genoux, je te fais quelque chose. Hein, et donc on a aussi besoin parfois de supplier Dieu. Et c'est le texte qui le dit, hein, c'est le texte qui parle de supplication. Et donc c'est aussi une prière particulière qui est une prière intense, hein, ce sont des prières particulières, et on le sait, hein, il y a quelques jours, enfin je dis pas ça pour voilà, mais c'est juste pour donner un exemple. Quelques jours dans un mariage, à la fin d'un mariage, on était dans la fête de mariage. Le mariage se termine, on arrive au vin d'honneur et il y a une enfant qui est là dans les bras de son papa et qui tout à coup a une réaction incompréhensible. Elle s'éteint littéralement. C'est-à-dire qu'elle ne bougeait plus, elle faisait plus rien. Donc on était là devant elle, c'est vraiment tout à fait déconcertant, et on a plus de réaction. Alors imaginez-vous les gens qui sont autour et qui se mettent à prier, quel genre de prière ils font? La prière de supplication. C'est pas « Seigneur, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. » Non, « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. » Vous voyez? Donc il y a des situations aussi dans lesquelles nous supplions Dieu. Nous supplions Dieu d'agir, de manifester sa grâce. Et puis, quand on a appelé l'ambulance, finalement, elle allait mieux. Mais Sur le moment, vous ne le savez pas. Hein. Sur le moment, vous vous demandez ce qui arrive. Et nous faisons face à des situations comme ça dans lesquelles nous supplions Dieu d'agir. Vous connaissez le texte de Acte 12, dans lequel Pierre est emprisonné. Pierre est en prison et le texte nous dit que l'Église priait pour lui. Mais là, ce sont des prières de supplication. Ce sont des prières où on supplie Dieu, où on montre à Dieu à quel point on a besoin de son intervention. Et donc ça, c'est important aussi qu'on sache que la Bible en parle, de ces prières-là, et que la Bible aussi nous invite tous à ne pas hésiter aussi à supplier Dieu, à lui demander sa grâce. En fait, c'est une question théologique très compliquée. Hein. C'est la question de dire, est-ce que Dieu peut changer sa volonté à cause de nos prières? C'est ça, en fait, le tout. Et donc, c'est une question qui donne lieu à beaucoup de débats, parce que certains disent, ben non, Dieu est Dieu, et donc, c'est pas la prière de l'homme qui change quoi que ce soit. Et pourtant, la Bible nous montre que Dieu plie devant la prière de l'homme. Je ne dis pas que dans toutes les situations, mais la Bible nous montre clairement que Dieu plie devant la prière de l'homme, que lorsque l'homme le supplie, il arrive que Dieu exauce l'homme. Même quand Dieu avait prévu quelque chose, il arrive que par la prière, Dieu exauce. Vous connaissez cet homme de la Bible à qui Dieu avait dit, mais voilà, l'heure de ta mort est arrivée. Il a supplié Dieu et Dieu lui a rajouté des années. Donc Dieu peut avoir un décret, hein, on appelle ça les décrets de Dieu. Le décret de Dieu, c'est la décision de Dieu. La décision de Dieu peut être A, mais il arrive que parce que le peuple de Dieu le supplie, il arrive que dans sa bonté, Dieu fasse autre chose que ce qu'il avait prévu. C'est pour ça qu'on a chanté « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Parce que finalement, si nous prions et que rien ne change jamais et que ça ne compte pas devant Dieu, alors ça ne sert pas à grand-chose finalement. Ça voudrait dire que Dieu nous invite à jouer la comédie. Écoutez les gars, je ne vais pas faire ce que vous voulez, mais demandez-moi quand même, on verra bien. Non, il écoute nos prières, il exauce nos prières. Il reste souverain, ça ne veut pas dire qu'il le fait en toute situation. Mais ça veut dire que nos prières ont du poids et nos prières comptent devant Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit aussi, concernant la prière d'accord, que si deux personnes s'accordent à demander quelque chose, cette chose sera accordée. Ça veut dire qu'il y a aussi une puissance dans la prière que nous faisons ensemble lorsque nous nous mettons d'accord. Eh bien, Dieu aussi nous exauce. La prière de repentance, évidemment, vous la connaissez. La prière dans laquelle nous demandons pardon à Dieu. La prière d'intercession, là où nous prions pour les autres. Alors, le texte d'Éphésiens 6, 18 nous dit « Et priez pour tous les saints ». Vous l'avez lu, « Priez pour tous les saints ». La prière d'intercession, c'est la prière dans laquelle nous prions pour tous les enfants de Dieu, nous prions pour les autres. La Bible nous invite aussi à être des gens qui intercèdent pour les autres. Et enfin, celle qui va nous intéresser, la prière de combat ou la prière d'autorité. Et le texte rajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc il nous dit, priez, faites en tout temps des prières, mais veillez à cela avec une entière persévérance. C'est fort, hein? Ça veut dire que nous devons veiller à prier avec une entière persévérance, c'est-à-dire se dire, Seigneur, aide-moi à persévérer. Parfois, on a envie de s'arrêter, de dire, Seigneur, c'est bon, j'ai assez prié. Mais Dieu nous dit, veillez à cela avec entière persévérance. Alors, les armes offensives du combat spirituel. Le texte de 2 Corinthiens 10, 4 à 5 dit ceci, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous voyez que le texte nous dit que nous avons des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez, c'est ça, hein? Quand on nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est pas juste pour le chanter toute la journée. Ça nous donne aussi une autorité. Et là, le texte dit pour renverser des forteresses spirituelles, évidemment. Des forteresses que l'ennemi met dans nos têtes, que l'ennemi met dans notre vie. Eh bien, nous avons des armes que Dieu nous donne pour renverser les forteresses. Et pour dire, nous ne voulons pas de ça. Et nous voulons que Dieu nous conduise. Nous pouvons utiliser les armes de Dieu par la vertu de Dieu, donc par la puissance du Saint-Esprit, pour renverser des forteresses. Lorsque nous prions, nous pouvons combattre spirituellement jusqu'à renverser des forteresses. Et le texte ici parle en particulier de renverser les raisonnements. Parce que finalement, les forteresses sont souvent dans nos raisonnements. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes rejettent Christ ? Les raisonnements. C'est dans les raisonnements qu'on rejette Christ, c'est dans le raisonnement qu'on choisit de vivre loin de Dieu. Et donc nous avons la puissance, par l'Esprit de Dieu, de renverser tous ces raisonnements dans notre tête à nous, mais aussi spirituellement, aussi dans les têtes des autres. La prière d'autorité ou la prière de combat spirituel. Comme je le disais, la prière en général renvoie au fait de s'adresser à Dieu, mais dans la prière de combat ou la prière d'autorité, on ne s'adresse pas à Dieu, évidemment. Là, c'est la prière dans laquelle nous prenons autorité sur des personnes ou des phénomènes sataniques. Typiquement, quand on prie pour la délivrance d'une personne, on va ordonner au démon de lâcher la vie de la personne, au nom de Jésus. On va pas lui demander. On va même pas prier Dieu pour que... On va ordonner, on va dire, je suis un enfant de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, et à cause de ça, je t'ordonne, toi démon, de sortir de cette personne maintenant. Donc c'est une prière d'autorité. Par la puissance du Saint-Esprit, on va parfois, dans notre prière, on va détruire des forteresses spirituelles. Au nom de Jésus, nous allons détruire une forteresse spirituelle qu'il y a parfois dans notre vie ou dans nos projets. Parfois dans l'Église, on veut faire des choses, il y a des obstacles, et parfois spirituellement on dit, Seigneur, nous faisons tomber cet obstacle au nom de Jésus. Donc nous prenons autorité. Parfois nous allons prendre autorité pour détruire les œuvres ou les projets de l'ennemi. Parfois nous allons lier les esprits sataniques. Et donc ça, tout chrétien, je le dis pas pour les mouches, mais tout chrétien doit savoir que tout chrétien a cette autorité-là. Et s'il nous arrive à nous de faire face à des phénomènes sataniques, nous avons cette autorité pour les rejeter. Et je vous avais parlé de ce jeune homme qui disait qu'il était visité régulièrement par des esprits impurs le soir. Eh bien, ce qu'on lui dit, c'est, eh bien, quand ils viennent, tu prends autorité. On lui a pas dit, quand ils viennent, sonne-moi et je viendrai d'urgence. C'est pas que je veux pas venir. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça. On peut pas constamment... Chaque enfant de Dieu a cette puissance-là. Prends autorité. Tu les rejettes au nom de Jésus. Tu leur dis de s'en aller au nom de Jésus. Tu leur dis qu'ils ont pas de droit dans ta vie au nom de Jésus. Tu proclames que tu appartiens à Jésus et tu affirmes ça. Et s'il recommence, tu résistes. Et chacun de nous pouvons le faire par l'autorité du nom de Jésus. Alors, c'est une autorité que nous avons reçue. Nous n'allons pas faire ça parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes beaux. C'est par le Saint-Esprit et surtout c'est par le nom de Jésus. C'est Jésus qui le fait. C'est pas nous. C'est par Jésus. C'est par l'autorité de Jésus, c'est à cause de la puissance de Jésus, c'est à cause de la victoire de Jésus. En fait, lorsque nous chassons un démon, nous lui disons, tu n'as pas de pouvoir parce que Jésus a tout pouvoir. Parce que Jésus vous a détrôné, parce que Jésus vous a livré au spectacle, vous n'avez pas de pouvoir ici. Donc nous proclamons la puissance et l'autorité de Jésus. C'est une autorité que nous avons reçue, et rappelez-vous Luc 10, 17, où ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis lorsque nous donnons des ordres. Encore une fois, ils n'ont pas prié les démons. Ils donnent des ordres. Pas avec effronterie de dire, je suis parfait, c'est pas ça. C'est, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Et à cause de ça, j'ai une autorité spirituelle. Donc c'est une autorité que nous prenons sur base de notre position en Christ, et pas sur la base de notre prétention, mais sur base de notre statut d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, et à cause de cela, je prends autorité. Satan, je refuse que tu continues de perturber cette rencontre. Il arrive parfois qu'on peut voir spirituellement, évidemment. Avec les yeux charnels, ça ne se voit pas. Mais parfois, spirituellement, on peut voir que ce qui est en train de se passer, ça vient des ténèbres. Et là, on peut condamner ces esprits-là. On peut chasser ces esprits-là. C'est pour ça, vous avez déjà certainement entendu, avant une prédication, un prédicateur qui dit « Seigneur, nous chassons les esprits de distraction ». Vous avez déjà entendu ça? Ah oui, non, mais... Oui, c'est vrai, parce que vous autres, vous êtes des gentils. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on prie ça? Parce que parfois, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous envoie un esprit de distraction. Peut-être que Dieu avait une parole pour toi, mais il envoie un esprit de distraction dans la communauté. Les gens sont en train de vous regarder, ils pensent tous à autre chose. Ça ne se voit pas. Les gens ont l'air bien gentils, ils ont l'air bien comme il faut, mais ils sont ailleurs. Parfois, pas parce que le prédicateur est long, hein, c'est pas ça, mais parce que réellement, voilà. Je vous ai déjà parlé des esprits de dispute. Parfois, il arrive qu'on dit « Seigneur, nous chassons les esprits de dispute. Nous chassons tout ce que l'ennemi voudrait mettre ici pour nous emberlificoter, et nous les chassons ces esprits-là. » Nous pouvons aussi parfois détruire les liens du diable dans la vie d'une personne. Et là, on proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous cassons ces liens-là. Parfois, les liens qui retiennent quelqu'un, ou les liens qui tiennent une famille, ou les choses qui affectent quelqu'un, au nom de Jésus, nous pouvons proclamer la délivrance, la liberté. C'est la prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, encore une fois, on ne discute pas, on ne négocie pas, on ordonne. Et parfois, c'est ce qui nous manque. Rappelez-vous, il y a quelque temps, c'était encore à l'époque, hein, à l'ancienne époque, nous avions parlé de cette réalité du fait que Jésus, dans la Bible, est présenté en même temps comme un roi serviteur sur l'ânesse, hein, quand Jésus rentre dans la ville de Jérusalem, où il est là, tout humble sur un petit âne, voilà. Et dans Apocalypse, on nous présente Jésus comme un cavalier. Et on avait dit qu'un chrétien doit avoir ces deux caractères de Christ en même temps. En même temps, nous devons être humbles, doux, pleins de grâce, pleins de compassion, mais en même temps, nous devons être des guerriers spirituellement. Et en même temps, nous devons avoir ce caractère de Christ qui est un cavalier, qui détruit les œuvres du diable. Rappelez-vous le verset qui dit « Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable ». Parfois, nous aussi, nous avons à prendre cette position-là, en Christ, par Christ, de détruire les œuvres du diable. Nous pouvons chasser des esprits au nom de Jésus. Chasser des esprits d'impureté, chasser des esprits de colère, des esprits de suicide, des esprits de dépression, des esprits de désespoir, des esprits de mort. Nous pouvons chasser des esprits au nom de Jésus. Alors, je voudrais maintenant parler d'autres armes offensives, de différentes stratégies de lutte que Dieu peut nous donner pour résister et pour même avancer dans la vie avec le Seigneur. Alors, quelques exemples, la prière intensive, la proclamation de la parole de Dieu, la dénonciation des œuvres de ténèbres, le pardon, la prise de position. Ce sont tout un ensemble de stratégies de lutte et je vais maintenant en voir quelques-unes rapidement. Alors, avant de présenter ces différentes stratégies de lutte, c'est-à-dire ces armes offensives que nous avons, faire une parenthèse en disant, avant même de lutter, parfois nous devons faire un grand nettoyage de notre vie. Il arrive parfois que nous voulions lutter spirituellement, mais notre vie est encore trop affectée par des choses que nous devons nettoyer. Parfois, il y a des relations que nous devons nettoyer, des habitudes, des pratiques que nous avons et que nous devons nettoyer. Parfois, c'est un nettoyage dans notre cœur de choses qui sont là et qu'on doit dire, Seigneur, nettoie mon cœur de ça. Parfois, c'est dans des relations, on entretient des relations malsaines avec des gens. Parfois, il faut couper ça. Parfois, on détient des objets qui sont des objets problématiques. On doit se débarrasser de ça. Parfois, on a des habitudes où on fréquente des lieux qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parfois, avant même de lutter contre l'ennemi, parfois, il faut nettoyer sa vie. Il faut dire, Seigneur, viens nettoyer ma vie. Viens, je voudrais que ma vie soit propre. Je voudrais que tout ça, ça s'en aille. Et je veux nettoyer ma vie. Une parenthèse. Alors, stratégie de lutte. Première stratégie de lutte, la prière intensive. Alors, vous avez tous vu que la Bible nous invite à prier. Mais une première stratégie offensive que nous pouvons avoir, parfois, c'est la prière intensive. Alors, la prière intensive, ce n'est pas la prière que nous faisons tous les jours. C'est une prière particulière. Ce sont des moments où, pour des situations particulières ou des temps particuliers, où nous estimons que nous devons faire une prière intensive. Exemple, Jésus, avant de choisir ses disciples, a prié toute la nuit. Si ce n'était pas nécessaire, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? Si jamais Jésus avait pu, en une prière de 5 minutes, dire « Seigneur, montre-moi qui doivent être mes apôtres. Amen. » Il n'aurait pas passé toute sa nuit à le faire. Donc si Jésus a passé parfois des nuits à prier, il est logique que nous aussi, nous ayons parfois à prendre des temps de prière particuliers. Je reprends l'exemple de Pierre qui est en prison. L'Église n'a pas prié 10 minutes. « Seigneur, sauve-le, délivre-le. Amen. » Non. Ce sont des prières intensives. Nous avons parfois, et je ne dis pas que l'Église doit être un lieu lourd, ou non, mais il y a des moments, il y a des situations, il y a des instants où on doit prendre le temps de vraiment prier. Par exemple, et ça c'est vrai à titre personnel aussi, hein, c'est parfois dans notre vie personnelle, on peut prendre des temps de prière personnelle. Par exemple, une soirée de prière. Donc une soirée de prière, c'est un moment pendant plusieurs heures, on prie. Alors on se dit, j'éteins ma télévision, j'éteins mon machin, et de telle heure, je vais prier. Je ne vais pas faire prier sans arrêt, je vais m'arrêter, lire un texte, peut-être réfléchir un petit peu, puis je vais reprier pour tel sujet, puis je vais... Parfois on a besoin de ça. Parfois on a besoin de nuits de prière. Alors vous voyez que Jésus a prié toute la nuit. Mais pourquoi est-ce qu'il a prié toute la nuit? Il aurait pu prier la journée. Donc parfois, on a besoin aussi, et c'est le psalmiste nous montre à plusieurs reprises qu'il priait la nuit. Ça, vous l'avez déjà lu hein, dans les psaumes, que David priait aussi la nuit. Parfois, nous avons besoin aussi de prendre des nuits de prière. Pas forcément toute une nuit, mais parfois ça peut être un moment, en fonction de comment le Seigneur nous conduit. Hein? Aurélien m'avait raconté un truc qui m'avait fait marrer, c'est dommage qu'il n'est pas là. Il m'avait raconté que Jean-Claude avait déjà proposé une veillée de prière et il m'avait fait rigoler, Aurélien. Dommage qu'il n'est pas là, sinon j'aurais pu raconter ce qu'il avait dit. Eh, mais c'est ça, oui, d'accord, oui. Mais donc vous voyez que ce sont des choses qui font partie de ce qu'un chrétien doit mobiliser. Alors, dans tout ça, ça doit se faire par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de se lever un matin en disant du 12 au 13, nuit de prière. Pourquoi? Comme ça. Non. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. On voit les besoins. On voit le pourquoi du comment. Mais ça peut se faire. Alors aussi, par exemple, journée de prière. Ça, c'est plus facile. Hein? On vient un samedi de 10h à 16h et on ne fait que prier. Comme ça, on a plus de temps pour prier pour plein de petits sujets. Alors évidemment, on ne va pas... mais voilà, un tel qui conduit pour tel sujet, là nous allons prier pour l'évangélisation dans Jumet. puis nous allons prier pour la Belgique, puis nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour les jeunes, nous allons prier... Mais en 6 heures, vous allez voir qu'on n'aura peut-être pas fini tout ce qu'on voudrait prier. Hein. Ça passe vite, hein, vous savez, 6 heures de prière. Non mais c'est sérieux, ça passe très vite. Hein. Parfois aussi, autre méthode qui existe, les chaînes de prière. Alors les chaînes de prière, c'est beaucoup plus simple. On fait un programme et chacun prend 1 heure de prière. Donc Evelyne prend de 8h à 9h, Maxime prend de 9h à 10h, Jacques prend de 10h à 11h, Lynn prend de... Et toute la journée est couverte. Et donc on a un sujet de prière par exemple, et pendant toute cette journée-là, nous couvrons le sujet par la prière. Par exemple, ça se fait dans des situations où mondialement il y a des problèmes, dans des situations très critiques, dans des problèmes de maladie très... Parfois, on se dit, Seigneur, on veut mettre le paquet. Et comme disait David, parfois on supplie Dieu et Dieu décide de ne pas faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'en abstient. Aussi, autre manière de faire, les foyers de prière, les groupes de prière. Dans une église, par exemple, il peut y avoir la réunion de prière, et puis il peut y avoir des foyers de prière, des groupes de prière. Donc, telle et telle personne qui disent, ben voilà, nous, à quatre, on se voit le mercredi chez Christiane, et on prie pour Jumet, par exemple. Donc, et ce foyer de prière, tous les mercredis, prie pour Jumet. Par exemple. Autre exemple, les fournaises de prière. Alors ça, vous avez déjà certainement entendu, c'est l'histoire des grands évangélistes qui prêchent dans des grands rassemblements où il y a beaucoup de gens. Et vous savez que souvent, quand les évangélistes sont très attaqués dans ces moments-là, parce que l'ennemi ne veut pas que les âmes se donnent, et donc parfois c'est plein de complications. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pendant que le prédicateur est sur scène en train de prêcher, il y a une fournaise de prière, c'est-à-dire un ensemble de chrétiens qui sont dans une pièce en bas et qui ne font que prier. Et donc pendant tout le temps de la prédication, il y a des gens qui prient. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui existent. Donc première arme offensive, la prière intensive. Autre arme offensive, le jeûne. Alors vous savez que le jeûne est très souvent associé à la prière. Et le jeûne consiste tout simplement, pour un temps, à se consacrer à Dieu, à se disposer à écouter Dieu, à se disposer à être sensible au Saint-Esprit. Donc on va prendre un temps particulier dans lequel on va dire, je laisse mes distractions, je laisse mes plaisirs, je laisse mes appétits, et je me consacre pour un temps à la prière. Alors parfois ça peut être se priver d'un repas, se priver de 2 repas, se priver d'une journée, de 2 journées, ça dépend un petit peu. Ça peut être parfois le jeûne de télévision, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas que je mange, mais je ne regarde pas la télévision pendant une journée. Ou je jeûne de téléphone, ou je jeûne de mon plaisir de jouer au kicker. Ou bon, voilà. Pendant un temps, on se met à part pour Dieu et on prend un temps de jeûne et de prière dans lequel on veut faire cesser les distractions et se consacrer uniquement et entièrement à la personne de Dieu. Alors le jeûne se pratique de façon individuelle. Rappelez-vous que Jésus disait, mais quand vous jeûnez, ne dites pas aux autres que vous avez jeûné, parfumez-vous bien. Ça veut dire que le jeûne se pratique individuellement. Par exemple, pour un sujet de prière, Seigneur, j'ai besoin d'une direction dans ma vie pour tel sujet. Je ne sais pas par où je dois aller, j'ai besoin de direction, je vais prendre une journée de jeûne où je peux vivre, travailler, mais en cette journée-là, je prie pour que tu me diriges. Mais le jeûne se pratique aussi en église. Et donc, c'est ce que la Bible appelle les convocations solennelles. Et ça, il faut savoir que c'est un truc qui est même resté dans le protestantisme, même au début du protestantisme, il y avait des convocations solennelles. Donc, c'est-à-dire, et à un moment donné, les responsables disent, voilà, convocation solennelle tel jour pour la prière, pour une raison. Imaginez qu'un jour Benoît fasse une terrible prédication. Et que, un beau matin, à Montigny-le-Tilleul, débarquent 4 combis de policiers. Monsieur Van der Capelle, à cause de votre prédication, Jamiou. Ben oui, voilà. On va pas tous dire, oh, le pauvre Benoît, on t'apportera des oranges. Non. On va dire, convocation solennelle, il faut qu'on le récupère, on en a besoin, qu'on va dire. Voyez. Donc il peut y arriver des situations dans lesquelles nous avons ou nous pensons que nous avons particulièrement besoin de prier. Alors le texte nous parle aussi de la prière entre responsables. Alors acte 13, 2 à 3 est un passage dans lequel on voit que le responsable de l'Église jeûnait et priait ensemble. Hein, comme quoi, c'est, même dans le Nouveau Testament, le jeûne et la prière existent toujours. Alors j'avance, lutter par la louange. Certains combats aussi se remportent lorsqu'on se concentre à louer Dieu. L'exemple de la muraille de Jéricho, certaines forteresses tombent par la louange persistante du peuple de Dieu. La louange, c'est une puissance. La louange, ce n'est pas une blague. La louange, ce n'est pas un moment de récitation, c'est très sérieux la louange. C'est un moment qui est spirituellement puissant, parce que nous proclamons notre foi, nous louons Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et vous voyez qu'à Jéricho, le peuple de Dieu louait, il célébrait, et les murailles sont tombées. Il y a des combats aussi, parfois, qu'on remporte par la louange. Par le fait de se mettre à part pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. On proclame la parole de Dieu dans une atmosphère d'adoration et de louange. On chante la parole, on proclame la parole, on annonce la parole. La louange, c'est aussi une arme. C'est aussi une arme parce qu'il y a cette force de la proclamation. Et donc, il y a des moments aussi où nous pouvons lutter par la louange. Même personnellement, dire « Seigneur, je prends un temps, je te loue. » Et c'est une puissance, c'est aussi une arme, nous montre l'Écriture. Par la louange, nous pouvons proclamer notre victoire. Colossiens 2,15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui rampant par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Parfois par la louange, nous proclamons la victoire. Hein? Quand on chante « Jésus est Seigneur, Christ est Seigneur », vous savez que c'est très fort hein, spirituellement. Dans le monde des ténèbres, quand en tâche humaine nous nous levons pour chanter le chant « Jésus est Seigneur, l'heure est arrivée, le moment de vérité », ils ne sont pas contents. Hein? Il ne faut pas croire qu'on est juste là. C'est spirituellement très fort de proclamer que Jésus est Seigneur. Il y a des dominations, des autorités qui, à jumet, tremblent à chaque fois que nous proclamons que Jésus est Seigneur. Et donc, la louange aussi est un outil que nous avons. Pourquoi ? Apocalypse 12, verset 11, nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu, donc il parle des chrétiens, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage a une puissance. Alors ici, ce n'est pas forcément le témoignage de témoigner à quelqu'un, mais c'est juste le fait de proclamer, de témoigner, de dire les choses. Ils l'ont vaincu à cause de la puissance du sang de l'agneau et à cause de la puissance de leur témoignage. Lorsque nous attestons ce que Christ est pour nous, lorsque nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous, nous témoignons et ça a une puissance. Ça nous rend victorieux de proclamer ce que Christ est pour nous, ce que Christ a fait pour nous. Et enfin, le passage nous dit, « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie. Total dévouement, abnégation. Voilà comment ils ont vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Parfois, il arrive aussi que ce soit important pour nous de proclamer la puissance du sang de Jésus, comme le texte vient de nous le montrer. C'est Derek Prince qui propose cette proclamation très forte. Et il y a une sœur qui était là il y a quelques semaines qui m'avait raconté ce témoignage. Elle n'est pas là, mais je peux le raconter, je pense. Elle racontait qu'un jour, elle était au début de sa conversion, elle était en train de prier, et des responsables, je crois, des responsables priaient avec elle, et au moment où elle priait, elle a vu deux démons qui s'éloignaient d'elle, mais qui continuaient à la regarder en lui faisant peur. Et elle disait, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez-vous-en. C'est une sœur ici qui m'a raconté ça dans cette pièce, hein, il y a quelques semaines. Et à un moment donné, elle disait, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il continuait à la regarder. Et à un moment donné, elle a dit, vous n'avez pas de pouvoir sur moi car je suis sous le sang de Jésus. Et à la seconde où elle a dit ça, les deux démons sont partis. Le sang de Jésus a une puissance. La Bible dit que c'est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est un sang qui crie victoire et qui proclame notre victoire. Et donc Derek Prince propose cette proclamation qui est en fait bibliquement fondée puisqu'il met des versets. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la main de l'ennemi. Éphésiens 1:7. Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, je suis continuellement purifié de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Par le sang de Jésus, j'ai le courage d'entrer en présence de Dieu. Par le sang de Jésus, qui continuellement pour moi vers Dieu dans les cieux. Face aux accusations du diable, nous pouvons proclamer la puissance du sang de Jésus dans nos vies, par lequel nous sommes rachetés, nettoyés, lavés. Enfin, une autre arme de lutte offensive, c'est la lutte par l'unité. Nous luttons aussi par l'unité des enfants de Dieu. Lorsque nous luttons par la prière d'intercession, hein, j'aime ce chant extraordinaire, hein, et quand on le chante, il y a quelque chose, c'est tellement fort. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. C'est fort, hein, ça. Lorsque l'Église est une et lorsque l'Église prie pour chacun de ses maillons, eh bien, même dans l'épreuve, le maillon tiendra bon. Ça, c'est la force de l'unité des enfants de Dieu. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous sommes un dans la prière, les uns pour les autres, c'est une lutte. Lorsque nous luttons par l'amour fraternel, lorsqu'une assemblée aussi est unie autour de ses conducteurs spirituels, lorsqu'une assemblée vit dans l'unité et où on se dit, on sait où on va, on marche ensemble, on suit le même pas, c'est une force spirituelle aussi. Lorsqu'une assemblée vit dans la soumission à la parole de Dieu, dans l'unité, c'est une force. Et donc nous sommes aussi vainqueurs par l'unité. Comme Église, lorsque nous refusons tout ce qui peut nous diviser, ben nous sommes aussi dans la victoire. Parce que l'ennemi veut diviser l'Église, et bien lorsque nous sommes un, nous sommes aussi dans la victoire. Alors voilà ce que Benoît me partageait la semaine passée. Il disait qu'effectivement, avec le bouclier de la foi en question, il arrivait aussi que les Romains puissent faire ce genre de formation, qu'on appelle former la carapace, ou alors qu'on appelle aussi la tortue. Ça, tu ne me l'as pas dit, Benoît, j'ai découvert par moi-même. Donc c'est la formation qu'on appelle la tortue ou la carapace. C'est-à-dire que tous les soldats sont là, ils mettent leur bouclier devant eux, au-dessus d'eux, et ils sont comme ça protégés des flèches. Donc ça, c'est la lutte par l'unité, lorsque tous les croyants sont ensemble. Alors le commentaire disait, c'est pas facile parce que quand ils marchent comme ça, ils doivent marcher de façon très coordonnée. Déjà hier à la marche de la fête nationale, c'est pas facile parce qu'ils doivent vraiment faire en même temps tous les. Eh bien là, c'est encore pire parce qu'il faut marcher, tenir le truc. Et si il y a des trous, on se laisse avoir. Eh bien, nous luttons aussi par l'unité des enfants de Dieu. Nous luttons aussi contre les ruses du diable. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de cet enseignement que nous avons tenu depuis octobre, c'est la fin. Alors, c'est pour ça que j'ai été long aujourd'hui, parce que je voulais tout faire. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie depuis tout ce temps, qui nous a conduits qui nous a dirigés dans ces choses-là. Et donc, en ultra condensé, 4 points qu'on peut retenir de ce long enseignement, pénible, difficile. Premièrement, nous sommes entourés d'un monde spirituel, d'un monde invisible qui affecte très fortement le monde visible. On l'a vu, il y a un monde spirituel. Deuxièmement, comme le disait Francis tout à l'heure, Dieu a une armée d'anges pour nous servir et nous aider dans notre marche. Alors ça remonte, les anges. On en a quand même beaucoup parlé. Dieu a des anges qui sont à notre service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Et on peut se réjouir de ça. Troisièmement, Satan a une armée de démons déterminés à nous faire peur, à nous ralentir, à nous terroriser, à nous égarer, à nous tourmenter. Et puis quatrièmement, nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres pour résister à ces œuvres du diable. Et Dieu nous donne les armes pour ça. On a vu beaucoup d'armes. Dieu nous donne les armes pour résister aussi aux œuvres des ténèbres. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous aide à mettre en œuvre tout ce que nous avons partagé. Voilà. Alors, il y aura dans quelque temps une version électronique et une version papier de l'enseignement lorsque tout aura été relu, refait. Il y aura la possibilité de le recevoir par mail pour les personnes de l'Assemblée et aussi une possibilité d'avoir une version papier pour ceux qui en feraient la demande. Alors, je dis de façon très très franche que un enseignement qui a duré aussi longtemps, je ne pense pas qu'on peut se l'approprier juste en l'ayant écouté comme ça. Je pense que c'est important que nous puissions prendre le temps de relire, de lire des textes, de réfléchir, parce que c'est là peut-être que des questions vont venir à votre tête, des choses qui vont vous venir. Alors je le dis à chaque fois, mais à chaque fois ça ne fait pas écho. Donc l'enseignement sur le Saint-Esprit, on l'a donné pendant 2 ans, j'ai jamais eu aucune question, aucune interpellation, aucun rien du tout. J'ai même eu aucune demande spécifique de... Alors moi ça ne me dérange pas, tant mieux. Mais je dis ça dans le sens où, si nous nous contentons d'écouter, je crois qu'on est à plus de 11 séances, ou peut-être plus sur le sujet... Si nous nous contentons d'écouter comme ça un dimanche, ça ne va pas nous faire avancer parce qu'on aura oublié, on n'aura peut-être pas compris la moitié. Donc je vous encourage, dans la mesure du possible, à prendre le temps de relire. Ça va vite. Il y a plus de 300 diapositives, mais ça va vite. Parfois, sur une diapositive, il y a juste un verset. Juste le lire. Peut-être que vous allez voir des contradictions, vous allez vous dire, mais ce n'est pas logique, ou tel verset dit que. C'est comme ça aussi qu'on grandit. Donc voilà, vous recevrez ça dans quelques temps. N'hésitez pas à prendre le temps de relire tout ça. Amen.